Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'heure Peli. Aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que en fait on va faire un numéro spécial sur les études de cinéma. Bah oui, Parcoursup approche, on a besoin de savoir ce que c'est que les études de cinéma. Et aujourd'hui je suis avec Alissa qui est spécialiste et qui dirige la page Instagram Le Petit Ciné Journal.
C'est ça, bonjour.
Eh bien bonjour, bah, merci d'être avec nous. Alors concrètement, c'est là une question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce que c'est que les études de cinéma? Qu'est-ce que vous avez fait, vous?
Alors moi, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis diplômée d'un Master 2, ou on dit aussi Maîtrise 2, d'études cinématographiques que j'ai réalisées à l'Université de Lille. Qu'est-ce que les études de cinéma? Eh bien, c'est assez vaste et j'aurais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui qui peuvent être des choses très très utiles pour tous les passionnés de cinéma qui rêvent d'en faire leur métier. Concrètement... Personnellement, mon projet final, ce serait d'être critique de film. Et donc, les études de cinéma peuvent nous aider, par exemple, à acquérir une base de connaissances qui vont permettre, par exemple, donc dans mon cas, de critiquer les œuvres cinématographiques.
Alors, c'est quelque chose qui, dans les études, vous avez appris petit à petit, j'imagine. D'abord, donc, vous avez dit, il y a le master, donc d'abord il y a la licence, hein, il y a l'université, ensuite le master, 2 ans de spécialisation. Votre parcours à vous, c'est quoi concrètement pour arriver peut-être un jour à être critique spécialiste cinématographique?
Alors moi, au départ, après le baccalauréat, j'étais partie sur totalement autre chose, pas du tout de cinéma. J'avais prévu une licence en droit, voilà. Mais arrivé là-bas, c'était totalement différent de ce que j'avais imaginé. Donc j'ai un peu abandonné, j'ai un peu baissé les bras pour me tourner vers ma passion, donc le cinéma. Donc j'ai commencé ma licence en études cinématographiques à l'Université de Lille, si mes souvenirs sont bons, en 2018. Donc c'est 3 années tout d'abord en licence, donc un cursus de 3 ans qui se déroule au campus Pont-de-Bois, donc plutôt localisé sur Villeneuve-d'Ascq. C'est gratuit et c'est ouvert aux bacheliers et aux personnes en réorientation comme moi à ce moment-là. Donc tout d'abord c'est une première année en licence 1, donc avec des cours très généraux, hein, pour poser une première base de connaissances, notamment pour ceux qui n'ont pas du tout étudié le cinéma au lycée, par exemple. Tout le monde n'a pas cette chance, et c'était mon cas. Ensuite, on a une licence 2, donc toujours avec des cours assez généraux, mais où on va plutôt interroger les genres cinématographiques plus en détail. On étudie par exemple le western, le cinéma d'animation, le cinéma d'horreur et plusieurs autres genres au cours de l'année. La licence 3 propose par contre des cours pratiques, 2 ateliers pratiques en deuxième semestre, il me semble. Donc c'est d'abord un cours de réalisation où on nous propose un thème et où les étudiants par petits groupes vont réaliser un court-métrage. Et les courts-métrages sont diffusés dans la salle de projection du campus. Donc l'Université de Lille a une salle de projection avec des petits tarifs préférentiels pour les étudiants. Donc plutôt sympa. Et donc pour l'atelier scénario, pareil, un thème pour la classe. Chacun écrit son scénario avec le professeur. Et le scénario qui obtient la meilleure note est également tourné, réalisé avec tout le matériel nécessaire. Et pareil, projeté en salle de projection aussi. Voilà, donc après la licence, c'est le master. Donc tout le monde ne va pas en master. Normalement, quand on part en master, c'est qu'on souhaite continuer en doctorat. Mais tout le monde ne le fait pas forcément, ce qui est mon cas. Il y a aussi ceux qui choisissent de faire la licence pour préparer les grandes écoles de cinéma. Donc c'est pas tout le monde qui le fait, mais de manière générale, les étudiants que je connaissais qui ont fait ça sont entrés très vite en école, en grande école de cinéma, parce que forcément on acquiert des connaissances que tout le monde n'a pas et qu'un bachelier n'a pas forcément. Donc en master, c'est beaucoup plus libre, beaucoup plus individuel qu'en licence. On est très très peu, hein, d'abord une trentaine, puis une quinzaine en M2. On crée aussi des liens beaucoup plus étroits avec les professeurs, hein, qui deviennent donc nos directeurs. On travaille beaucoup individuellement avec eux et c'est super intéressant. Pour ce qui est des cours, on a à tout casser une vingtaine d'heures de cours, parce que forcément, il faut compenser avec un travail personnel très très important. L'aspect le plus gros aspect du master, c'est vraiment le mémoire, évidemment. On vit mémoire, on mange mémoire, on dort mémoire. Et donc, les cours vont tourner vraiment autour de sa rédaction, autour de la méthodologie de la recherche, mais aussi de l'analyse d'images. C'est ce que je préférais, d'ailleurs. Et aussi, il y a des séminaires, beaucoup de séminaires, souvent dispensés par les professeurs eux-mêmes. Je me souviens avoir eu, par exemple, des séminaires sur les décors de films et les croquis de décors de films. Donc, c'était super intéressant, avec des intervenants parfois professionnels qui viennent nous donner des séminaires aussi. J'ai eu également des séminaires sur l'intertexte musical, sur l'incursion critique, sur des archives. Et on travaille aussi énormément en collaboration avec, par exemple, la Cinémathèque de Bruxelles et les archives départementales du Nord qu'on retrouve à Lille aussi. Après toutes ces choses-là, le mémoire, les séminaires, etc., je pense pouvoir dire que même si les thèmes changent parfois, la qualité des cours est vraiment superbe. On a vraiment des professeurs qui nous paraissent, en tout cas à nous, importants dans le domaine du cinéma. J'ai par exemple travaillé avec Édouard Arnoldi, Jessie Martin aussi, des professeurs qui vraiment travaillent également à Paris ou à Bruxelles pour Édouard Arnoldi.
Alors justement, est-ce que c'est le fait de travailler, d'avoir une licence, un master, et de travailler peut-être avec des gens qui sont peut-être prestigieux dans ce domaine, etc. Est-ce que l'ensemble de ces études a un coût qui est relativement élevé, ou est-ce que c'est accessible à beaucoup de gens, ou est-ce que on peut aussi le comparer peut-être à des écoles qui sont peut-être plus spécialisées, privées aussi? Comment, quand on est étudiant, comment on se dit, tiens, je veux faire ça, mais est-ce que, combien ça coûte? Est-ce que j'en ai les moyens? Est-ce que c'est, vous l'avez fait sur Lille, mais il y en a certainement d'autres dans des villes peut-être un peu moins chères ou un peu plus accessibles. Comment, quand on est étudiant, vous avez vécu ça, on se dit, tiens, je vais faire ça, et dans cette ville-là, et comment je me prépare à 5 ans d'études?
Ben, pour le prix, effectivement, ça peut être une inquiétude pour beaucoup d'étudiants maintenant, mais c'est vrai que l'université, de manière générale, ça permet d'avoir des études de cinéma qui sont plutôt accessibles à tous, parce qu'on peut avoir, par exemple, des bourses sur critères sociaux, etc. C'est vrai que les écoles, les grandes écoles, les écoles Lumière, par exemple, sont beaucoup moins accessibles, notamment parce qu'il y a un concours à l'entrée et que tout le monde ne pourra pas forcément y accéder. Donc c'est vrai que l'université, pour ça, ça peut être super intéressant, parce que pour moi, ça n'est pas moins qualitatif, en fait.
D'accord, oui, tout à fait. Bah, après, effectivement, il n'y a pas, c'est pas parce qu'on paye qu'on a une meilleure qualité. Ça, évidemment, c'est pas non plus parce qu'on paye qu'on est sûr d'avoir un métier après. Évidemment que non. Ça, on connaît hein, des écoles qui proposent ça, mais on sait très bien que, en fait, c'est pas forcément vrai. Mais c'est vrai, quand on est étudiant et qu'on se dit, tiens, je vais mettre ce vœu-là dans Parcoursup, par exemple, ou quand on a, vous l'avez dit tout à l'heure, une réorientation, on se dit, tiens, je veux faire ça. Combien, la vraie question s'est posée, c'est combien ça coûte? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est abordable? Et c'est toutes des questions qu'on peut avoir quand on ne connaît pas, en fait, ce domaine-là. Justement, par rapport aux études, est-ce que vous avez parlé peut-être de stage tout à l'heure? Est-ce qu'il y a un stage pratique? Est-ce que c'est un domaine, par exemple, quelqu'un qui veut faire de la réalisation et donc il se dit, tiens, je veux faire un stage de réal, un stage de production, un stage de critique, un stage... Est-ce qu'il y a des stages pratiques qu'on peut faire, et combien de temps ils durent, et est-ce qu'on est accompagné aussi pendant ces stages?
Alors, pour les stages, effectivement, il est possible à la fac notamment de faire des stages. Ils en proposent à partir de la L2 jusqu'en master, mais bien souvent en master, on choisit de ne pas en faire du tout, parce qu'on n'a pas le temps, clairement, ça n'est pas possible de faire une recherche et d'à la fois travailler à côté dans le domaine du cinéma. Donc oui, c'est possible de faire un stage, effectivement, à la fac. Moi, j'ai choisi de ne pas en faire. En fait, ça fait partie d'une unité d'études qui est l'UE10, où on peut choisir soit de réaliser un stage, donc de plusieurs semaines, si je ne me trompe pas, c'est environ 6 semaines minimum. Soit on nous propose plusieurs cours qui diffèrent totalement du programme général, on va dire, et qui réunit de nombreuses licences de la faculté des humanités. Donc on peut travailler avec des personnes en licence d'autres choses, de théâtre, de danse, de musique. Et personnellement, c'est ce que j'ai choisi parce que on nous proposait le cours écriture critique. Et donc forcément, ça m'a attirée et c'est ce qui m'a fait découvrir ma passion pour la critique.
D'accord, oui, je vois. C'est-à-dire que c'est à partir de là que vous vous êtes dit la critique, c'est pour moi, c'est vers là que je vais m'orienter. Alors, en parlant de critique, vous avez parlé de master tout à l'heure. C'est quoi votre spécialité? C'est quoi le mémoire sur lequel vous êtes penché? Parce que finalement, il y a un mémoire. On rappelle que le mémoire, c'est donc dans le master quelque chose qui est obligatoire dans les études des cadres intellectuels après. On est obligé dans un mémoire de faire, donc un mémoire c'est un écrit, on devient spécialiste de quelque chose. Quel est le sujet ou les sujets, s'il y en a eu plusieurs, que vous avez choisi durant vos 2 années de master, et est-ce que de façon très brève vous pouvez nous en parler?
Donc à l'université de Lille, la petite spécificité du master études cinématographiques, même par rapport aux autres masters arts de l'université de Lille, c'est que nos professeurs ont choisi de nous faire réaliser 2 mémoires, comme si un n'était pas assez. Donc 2 mémoires, on va dire un petit et un grand, c'est-à-dire que la première année, on réalise un petit master d'une cinquantaine, un petit mémoire, pardon, d'une cinquantaine de pages. Un petit échauffement, on va dire, pour la seconde année où on réalise le mémoire, le grand mémoire d'une centaine de pages. Donc bien sûr, on nous propose souvent de reprendre le sujet de la première année pour l'étayer un petit peu pendant la seconde année, pour en faire un plus gros mémoire, ce qui est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas à tout recommencer, on a quand même une base de recherche d'ores et déjà faite. Mais personnellement, j'ai choisi la difficulté et donc j'ai fait 2 sujets totalement différents. Enfin, ils se rencontrent quand même sur quelques concepts, mais 2 sujets différents. Donc le premier était intitulé « Fantasme et dispositif, représentation, expérience, regard, analyse du film Natural City » réalisé par Min Byung-chun en 2003. Donc c'est un mémoire qui portait donc sur un film de science-fiction sud-coréen que même les Sud-Coréens ne semblent pas connaître. Et il avait pour but d'analyser les fantasmes de l'homme représentés au travers de dispositifs technologiques dans ce film et de ses expériences. Le second mémoire était quant à lui intitulé « La gynoïde ». Figure de l'hubris humaine. Donc pour clarifier un peu le terme de gynoïde, c'est tout simplement un robot humanoïde auquel on aurait donné une apparence féminine volontairement. Et donc le but de mon mémoire, c'était de questionner cette représentation de la gynoïde dans les films de science-fiction de mon corpus, donc, et de mettre en avant le lien que cette figure pouvait avoir avec l'hubris humaine, ce concept d'hubris. Donc voilà. C'est assez intense de mémoire.
Ouais, c'est intense. C'est vrai que d'habitude, on n'en fait qu'un seul. Et là, vous avez choisi d'en faire 2. Alors, c'est bien parce que vous augmentez votre capacité d'être spécialiste. On encourage d'ailleurs les gens qui, les futurs étudiants qui vont faire ça, d'en faire peut-être 2. C'est difficile, c'est lourd. Mais au moins, ils agrandissent leur spécialité. Alors, ce que vous dites par rapport donc, c'est les robots qui, en fait, sont des femmes, qui se font passer pour des femmes, en fait, visuellement, j'entends. Hein.
Visuellement, elles sont femmes. Et parfois, elles sont même de vraies femmes, finalement. Elles pensent on pourrait dire fémininement, et le but de la recherche, c'était vraiment de mettre en avant leurs interactions avec les hommes humains en plus de ça.
Vous avez dit que le premier mémoire sur lequel vous avez penché, c'est le film donc coréen, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que ce film du coup a été un succès? Parce que vous avez dit quand même qu'il y a certains Coréens limite qui ne le connaissaient pas. Mais est-ce que finalement il a été quand même blâmé par la critique, ou alors est-ce qu'il a été primé? C'est concrètement c'est quoi ce film, et où est-ce qu'on pourrait le retrouver si nos auditeurs ont envie de le regarder?
Alors, Natural City, donc il est réalisé par Min Byung-chun en 2003, donc on peut dire que ça commence un peu à dater. Donc effectivement, si vous arrivez à le visionner, parce qu'il est assez difficile à trouver en streaming ou sur les plateformes, donc personnellement, j'ai acquéri le DVD en version VF, voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver d'accessible ici. Donc si vous pouvez le voir, vous remarquerez que l'esthétique déjà est un peu vieillotte, hein, on peut le dire. C'est un film donc de science-fiction qui décrit un univers post-apocalyptique tout sauf utopique en fait, très futuriste, dans lequel on a un soldat qui s'éprend d'un cyborg féminin donc. Donc ce cyborg féminin par contre expire dans quelques jours, dans 3 jours il me semble dans l'histoire. Donc le personnage principal, ce soldat, va tenter de sauver son grand amour cyborg en faisant appel à un savant fou qui trafique comme ça les cyborgs pour leur donner soit des capacités extraordinaires, soit pour arrêter leur date d'expiration en fait. Et donc non, en fait, c'est pas du tout un film qui a été assez bien accueilli par la critique. Comme je disais précédemment, c'est un peu un raté entre guillemets, un raté à la fois dans sa réalisation, dans les choix esthétiques et narratifs en fait, et autant dans l'aspect commercial. Vraiment, je pense que c'était vraiment un gros flop, si je peux me permettre, pour l'époque. Et donc même les Coréens souvent ne connaissent pas ce film. Mais c'est justement le fait qu'il avait quelques petits points qui pêchaient, on dira, qui m'a intéressée et qui m'a questionnée sur ses représentations. Est-ce que c'était finalement un choix de donner cette esthétique un peu vieillotte, un peu ratée, comme je disais, ou est-ce que ben, c'est seulement des questions techniques et commerciales ?
Alors, c'est marrant, c'est la question que j'allais vous poser, parce que si c'est un film un peu raté, que même les Coréens ne connaissent pas, pourquoi avoir choisi ce film? C'est-à-dire, alors je pense que même nous, en Europe, à mon avis, on ne le connaît pas forcément, il n'est pas sur les plateformes, certainement, il faut acheter donc le DVD. Le choix s'est orienté vers ce film peut-être un peu par hasard, ou alors non, c'était totalement ciblé, c'était ce film-là, parce que vous l'aviez vu et vous avez dit « je veux faire ça ». Comment en fait, alors je pose ma question sous-jacente, quand on est en mémoire, enfin en master pardon, comment on choisit un sujet de mémoire? Parce que il y a des étudiants qui ne vont peut-être pas faire seulement la licence, ce qu'on leur souhaite de faire un mémoire, comment on en vient à choisir un sujet puis finalement à devenir spécialiste de ce sujet-là?
Alors en fait, c'est très simple. À la fin de la licence 3, on nous demande, si on veut passer en master, de commencer à préparer un projet, une idée, une esquisse. Donc moi, personnellement, il me semble que j'étais partie peut-être plutôt sur des films coréens dans lesquels on parlait d'écologie, mais tout en gardant un aspect science-fiction. Moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Et finalement, donc j'ai trouvé Natural City en visionnant des films, parce que souvent, les directeurs de recherche nous propose de voir plus de films et de trouver un motif, quelque chose qui nous attire l'œil et sur lequel on pourrait s'interroger pendant une année, voire deux. Et donc c'est vraiment en cherchant des films qui raccrochaient à cette idée de l'écologie un peu science-fiction que j'ai trouvé Natural City. Dans le thème, on voit très vite où est l'aspect science-fiction et écologie. Et donc c'est un peu, oui, par hasard, hein, comme ça que j'ai trouvé Natural City. Et c'est vraiment au visionnage les dispositifs technologiques qui m'ont interpellée plutôt que l'aspect post-apocalyptique, aucune nature ne peut vivre dans cette Natural City finalement. C'est vraiment les robots, les dispositifs holographiques, parce qu'il y en a énormément dans ce film, qui m'ont interpellée. Je me suis dit, tiens, c'est étrange cette utilisation de la technologie dans un monde qui est déjà technologique. Et là, les dispositifs font illusion, font ressortir les fantasmes de l'homme. C'est vraiment ce qui m'a intéressée.
C'est le sujet, c'est après plusieurs recherches que vous avez dit, tiens, j'ai regardé ce film, en fait, par rapport à mes goûts, à ce que moi j'ai recherché, c'est ce film-là qui m'a intéressé. Alors du coup, la question sous-jacente, comment on fait pour choisir un sujet de mémoire? Moi, j'imagine quand même des étudiants qui sont en licence, ils disent, ouais, je sais pas, je vais peut-être faire un master, mais bon, il faut faire un mémoire, je sais vraiment pas, je sais pas quoi choisir. Comment un étudiant à la fin de sa licence, parce que vous avez dit, les directeurs incitent fortement à déjà choisir, ou à chercher en tout cas. Comment on fait concrètement pour choisir un sujet? Est-ce qu'on s'oriente vers des goûts qui nous plaisent, ou est-ce qu'on s'oriente plutôt vers quelque chose qu'on essaie de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire que on a quelque chose qui nous plaît, mais on veut aller découvrir autre chose? Concrètement, c'est quoi de choisir un sujet pour son mémoire?
Alors, choisir le sujet, je dirais que c'est la chose la plus difficile du processus du mémoire. La rédaction, très simple. Les recherches, très simples, une fois qu'on a son sujet, finalement. Je me souviens très bien que pour ma première année, mon premier mémoire, c'était la difficulté. C'est vraiment une chose qui m'a vraiment ralenti dans le processus de la recherche, parce que j'ai défini mon sujet en mars, je dirais, alors qu'on commence, oui, à y réfléchir peut-être en mai, juin, lors de la L3, quoi. Donc en mars, alors qu'il reste 2 mois pour rendre son mémoire, on le définit, voilà. Donc c'est pas forcément la première chose qu'on fait, finalement, on va chercher des motifs, peut-être un corpus de films précis. En fait, c'est vraiment de la découverte à chaque fois. Donc, on choisit un point d'ancrage, on va dire, une idée principale, quelque chose qui nous intéresse, c'est mieux, parce qu'on va y passer quand même peut-être 2 ans, peut-être 1 année, mais c'est long, du coup, si on n'apprécie pas ce qu'on fait. Donc oui, je dirais qu'on part d'abord au feeling, finalement, à quelque chose qu'on aime, et ensuite, on découvre, forcément, parce que on va trouver un film qui se rattache à notre corpus qu'on ne connaissait pas. On va trouver, je ne sais pas, une lecture qu'on va trouver très intéressante, avec des concepts qui correspondent à ce premier point d'ancrage qu'on avait trouvé. En fait, c'est vraiment très évolutif et je dirais que ça évolue tout le temps. Un mémoire n'est jamais terminé.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un mémoire, on le continue peut-être même encore aujourd'hui, si vous pouviez peut-être rajouter des choses dans votre écrit, parce que vous avez découvert d'autres choses depuis que vous l'aviez présenté, parce que je rappelle qu'un mémoire, on le présente aussi, hein, voilà, une fois qu'on l'a terminé, le dossier est fini, waouh, c'est génial, mais on le présente face à un jury, et avec son directeur de mémoire, donc qu'on remercie en général d'ailleurs, on dit merci beaucoup de m'avoir aidé. Donc ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui, je suppose que si vous deviez, par exemple, sortir votre mémoire en bouquin, par exemple, si vous deviez sortir votre œuvre, je pense qu'il y aurait d'autres choses à rajouter, un élément un peu évolutif jusqu'à aujourd'hui. Dernière question qui est fort intéressante dans les études de cinéma, est-ce que il est possible, parce que je pense que c'est une question qu'ont certainement beaucoup d'étudiants se posent, est-ce qu'il est possible d'aller à l'étranger durant ces années, licence ou master, mais je pense que vous allez plutôt me dire que c'est plutôt en licence, étant donné qu'en master il y a le mémoire, mais peut-être que c'est possible. Est-ce que c'est possible d'aller à l'étranger et que cette formation à l'étranger, je sais pas par quel moyen, Erasmus ou alors des accords entre des écoles ou des universités, d'avoir en fait d'acquérir une connaissance d'un autre cinéma? Le cinéma, vous avez choisi le cinéma coréen par exemple, est-ce qu'il aurait été envisageable par exemple, de partir en Corée pour être plus proche de la culture, peut-être vous parlez peut-être même coréen, peut-être vous avez vu le film en VostFR. Est-ce qu'il est possible de partir à l'étranger?
Alors effectivement, il est possible de partir à l'étranger, donc pas en Corée malheureusement. C'est un très gros regret que j'ai. Mais oui, il est possible de partir, de faire un échange universitaire, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, plutôt en master qu'en licence. Donc en master, on nous proposait 2 possibilités d'échange universitaire. Je me souviens qu'on pouvait partir donc en collaboration avec l'université d'Udine, donc c'est en Italie. C'est une université qui est spécialisée notamment sur les archives. Donc c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas personnellement, donc c'est pour ça que j'ai pas choisi cette alternative. Mais il y a cette possibilité, et il y a aussi une autre possibilité, donc avec le programme IMAX. C'est un parcours international qui propose un échange universitaire avec le choix entre 16 universités différentes autour du globe. Pas en Corée, malheureusement, mais il y a beaucoup de choix, Montréal notamment. Je sais qu'une camarade était partie à Montréal, et donc en échange, évidemment, puisque c'est un échange, on reçoit également des étudiants d'ailleurs, des étrangers, qui peuvent aussi parfois, avec leurs interventions pendant les cours, enrichir un peu nos connaissances à nous qui ne partons pas, voilà.
Oui, j'imagine que si on peut pas partir, on rencontre des gens qui peuvent nous parler de leur expérience, mais c'est vrai, peut-être que c'est intéressant si je m'intéresse au cinéma. Après, ça dépend encore une fois des accords qui sont signés entre les universités. Mais si je m'intéresse au cinéma italien, peut-être c'est intéressant peut-être de partir, si on me le permet, ou même moi personnellement, de partir en Italie pour m'intéresser au cinéma italien, surtout si c'est le sujet que j'ai choisi. Les western spaghetti, par exemple, c'est un grand sujet. Western spaghetti, voilà, on embrasse Bud Spencer et Terence Hill. C'est un sujet qui a eu énormément. C'est des westerns qui ont été repris à partir des westerns américains. Et d'aller en Italie pour, j'imagine qu'il doit y avoir des musées, tout ça, ou même des salles d'archives. Peut-être partir là-bas pour que ça serve aussi peut-être pour un sujet de mémoire. Ouais, tout à fait. Alors, c'est des études qui vous plaisent, qui vous ont plu, c'est des études qui vous ont servi et enrichi intellectuellement, humainement. Aujourd'hui, à quoi concrètement, après 5 ans, c'est dur quand même, un master c'est difficile, vous en avez fait 2, donc il y en a certains, ils font un master, ils font qu'un seul mémoire, vous avez fait 2 mémoires dans les 2 ans de master. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous faites et à quoi ça vous a servi? On sait que votre ambition c'est de devenir critique certifié cinéma, mais qu'est-ce que concrètement vous faites aujourd'hui pour votre quotidien en vous servant de ces 5 ans d'études-là?
Alors, si on pense concrètement, mon diplôme me sert à rien pour l'instant. Je vais vraiment appuyer sur le pour l'instant, parce que j'ai l'impression que de toute façon, dans le cinéma, le niveau d'études n'a pas de grande importance finalement, et que c'est plutôt la passion et le talent qui vous permettent d'avancer, hein, plutôt que les études, même si ça sert quand même. Je vais pas cracher sur 5 années d'études. J'ai absolument adoré tout ce que j'y ai appris, les personnes que j'ai rencontrées, mais pour l'instant, c'est pas forcément utile là tout de suite. Actuellement, je suis une formation en journalisme pour un peu enrichir ma rédaction, parce qu'on sait hein, que l'écrit universitaire est à l'opposé total de ce qu'on peut lire dans la presse. Donc ça me permet de changer un peu mes habitudes de rédaction. Et puis en parallèle, ben forcément j'ai mon compte Instagram qui me permet de toujours vivre ma passion. En parallèle donc de cette formation, mon compte Instagram donc sur lequel je fais des critiques des films et des séries que je vois pour mon plaisir personnel. Donc il me permet d'avoir entre guillemets un pied déjà dans la critique. Et aussi de faire marcher ma créativité, parce que j'ai choisi un concept collage, on va dire, qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir dans les magazines ou dans le journaling à l'américaine qui est très en vogue en ce moment.
D'où le nom Ciné-Journal, parce qu'en fait, dans votre page Instagram, hein, allez la voir parce qu'elle est vraiment très bien, en fait, vous avez eu recours à un visuel où on dirait une espèce de carnet de notes où en fait, vous avez écrit, puis vous avez souligné, raturé, en fait, tout est fait, allez voir, parce que c'est très bien, tout est fait c'est fait à l'ordinateur, j'imagine, en digital, mais on a l'impression que c'est fait à la main parce qu'en fait, vous avez raturé, enfin, vous avez souligné, surligné avec un fluo, enfin, c'est... Alors, il y a la dernière grande publication que vous avez faite, c'est donc sur la série Beach and Rich, c'est ça, voilà, qui est une série sud-coréenne. Et oui, on aurait pu le deviner. Puis vous faites aussi des récaps. Vous avez fait le récap du mois de janvier. Vous venez de sortir le récap du mois de février. En fait, vous revenez sur des films qui ont fait les mois précédents, qui sont sortis. Vous avez mis Anatomie d'une chute dans le récap du mois de février, qui a été primé d'ailleurs, ce film qui est absolument incroyable, hein, cinéma d'auteur. Et donc en fait, c'est vos études qui vous permettent d'avoir une analyse critique derrière, d'analyser, de vous conforter aussi dans l'idée que la critique cinématographique, c'est clairement ce vers quoi vous allez aller. Est-ce que vous avez déjà des plans? Alors, parce que si vous me dites que là, vous êtes un peu dans le journalisme, vous faites une petite formation, est-ce que vous avez déjà une idée de où vous pourriez être embauché pour la critique? Est-ce que à quoi va servir cette formation de journal? Est-ce que on serait plutôt sur de l'oral, comme on est en train de faire maintenant, ou est-ce qu'on est plutôt sur de l'écrit? C'est quoi les projets prochainement?
Alors, j'ai toujours préféré l'écrit à l'oral. Je sais pas si c'est la formation justement universitaire où on rédige beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose que je préfère, la presse écrite tout simplement. Et puis avoir des pistes, pas forcément parce que je me laisse les portes assez ouvertes sur toute possibilité, même si c'est vrai que par exemple les professeurs, pour revenir à la fac, les professeurs donnent très souvent des pistes aux étudiants à la fin de leurs études, hein. C'est pas un master professionnalisant, mais les professeurs sont toujours là pour nous, ce sont quand même des personnes importantes dans le milieu du cinéma et de l'étude cinématographique, et donc ils ont des petits contacts, et ils sont pas du tout avares sur ces contacts justement. Donc on m'a déjà donné quelques pistes de journaux peut-être un peu moins connus sur l'île par exemple, et puis je pense peut-être réaliser un stage à la Voix du Nord, parce que je sais qu'ils ont une double page cinéma, donc ça pourrait être intéressant pour moi d'avoir cette expérience.
Eh ben, c'est exactement ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Alissa, de la page Instagram Ciné-Journal. Génial d'avoir parlé de ces études. J'espère qu'on vous a donné envie, les auditeurs, de faire des études dans le cinéma et surtout d'éviter les clichés. Ça sert à rien, c'est trop cher, puis de toute façon, il n'y a pas de débouché, puis de toute façon, moi, j'ai pas de talent, donc je ferai jamais ça. Non, 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 non. Évidemment que non. Il faut faire des études, en tout cas, dans le domaine artistique. N'hésitez pas. Et puis là, on était dans le cinéma. Alors, on aurait pu faire sur la danse, mais sur la danse, vous n'êtes peut-être pas forcément calé. Mais là, on a choisi le cinéma. Merci beaucoup, Alissa, d'avoir été avec nous. Et c'est quand vous voulez, la porte de Pediprod est ouverte pour une prochaine interview, peut-être de la science-fiction, parce que j'aime beaucoup la science-fiction. Comme je sais que vous êtes spécialiste, un jour se reverra-t-on ?
Avec plaisir pour une prochaine fois. Merci à vous.
Merci, ciao, ciao.